gérer la, une partie de la direction avec les ateliers des employés. Et aujourd'hui, il y a des espaces pour plusieurs activités. Donc, il y a des salles de, pour faire des laboratoires, des salles de conférences, etc. Mais aussi pour les fêtes, par exemple. Pas ici, c'est comme ça avant. Il y avait des employés, des techniciens. Et donc nous avons récupéré ce qui n'était pas possible. Il y a des petits laboratoires artisanaux individuels. Par exemple, ici il y a une production des choses qui servent pour les petits trains pour les enfants. Ici, on fait des cours de langue aussi, soit. Ici, il y a l'administration. Et l'administration, ça veut dire aussi l'activité des patronats syndicaux et des assistances pour les travailleurs ici, mais pour les travailleurs qui viennent des alentours aussi. C'est des coworkers. C'est un ancien travailleur de Maflo et autre chômeur. Ils sont ensemble pour faire sa propre activité. Il y a une activité aussi de forte relation avec la population sur la distribution du produit agricole du parc agricole Sud-Milan, qui est le deuxième en Europe pour extension. Et il y a des petits producteurs qui ont fait la logistique pour les petits producteurs et la distribution à Milan à travers les groupes de solidaire des groupes le mouvement des sainte-terres brésiliens et l'autre inspiration, comme les Argentins des usines de papier, mais à l'origine d'occuper, résister et produire, il y a le mouvement sainte-terre et João Pedro Stedile, qui a été ici deux fois, et nous avons organisé avec lui des grandes assemblées, etc. L'inspiration est écologique et contre l'agrobusiness pour l'agroécologie. Et donc la relation avec la population passe surtout à travers la distribution des produits agricoles. C'est ça un peu l'idée que l'usine occupée peut être un espace de relations et de promotion de quelque chose d'alternative à niveau de la consommation, et une alternative au néolibéralisme, la grande distribution organisée, etc.
Ça dit quoi, ça
C'était la campagne de financement. Pour faire le bancal, c'est le pallet que vous voyez dehors, éthico, et ça veut dire qu'il n'est pas fait pour la criminalité organisée au noir et sur la surexploitation des immigrés. La production de pallet, c'est totalement au noir. Et donc, promouvoir le bancal éthico, c'est de faire autre économie, non, et en défense des droits des travailleurs, et c'est l'idée.
S'il y a
laboratoire de production.
C'est un changement. Il y avait la réparation des appareils électriques et des, comme le frigo, etc. Et la vente au petit marché. La fermeture des petits marchés a changé un peu. Et donc on doit voir exactement la réorganisation comment va passer. Et ce qui marche plus, c'est la réparation des ordinateurs et qui sont par là. Mais ça, c'est un peu bloqué maintenant. La réparation des ordinateurs et la reconstruction de certains ordinateurs. Et à la fois, on donne directement aux associations qui ont besoin de quelque chose, que ce n'est pas le dernier modèle, mais fonctionne la connexion Internet. On fait ça avec des écoles ici. Ce ne sont pas des grands bénéfices économiques, mais c'est la relation politique. C'est formidable, formidable. Ici, c'est la production de pales. Ça va venir. Ça va grandir beaucoup, hein. Ça va agrandir beaucoup. Il y a une autre coopérative qui vendra ici pour faire une grande production, parce que si tu as des volumes très grands, tu peux avoir des bénéfices économiques. Ce sont seulement comme ça, on ne peut pas aller loin.
Et vous avez pensé par rapport aux nouvelles technologies, etc., quand je vois des appareils comme ça, pensez aussi aux imprimantes 3D, des choses comme ça?
Si, l'évolution sera exactement pour faire des choses plus en grand. Il faut avoir des moyens pour acheter des plus grandes machines, etc. C'est exactement le plan de travail que nous avons préparé. D'ici un an, nous aurons la possibilité de faire une activité beaucoup plus grande. Il faut un autre camion, par exemple, il faut l'acheter, parce que tu peux prendre du travail, mais tu n'as pas les moyens pour la distribution.
Pas la distribution.
Il faut avoir 15 000 euros pour acheter un autre camion.
Et là-dessus, est-ce que c'est possible d'avoir des liens avec d'autres types de mouvements coopératifs, etc., par rapport à ça, le transport, si, par exemple?
Bon, pour le transport, les coopératives sont la pire chose qu'il y a sur le marché aujourd'hui. Ah. Ce n'est pas l'histoire héroïque des coopératives de fin 1800. Et donc les coopératives sont utilisées pour baisser les droits des travailleurs. Toujours 90% des coopératives sont comme ça. Et donc ce n'est pas la chose meilleure. Nous sommes coopératives par la possibilité juridique de travailler ensemble, sans profit. Mais pour ce qui existe, nous pensons que le mutualisme historique, il faut le renouveler et penser. Mais la situation, c'est pas bien. Il y a quelques coopératives. Nous faisons avec des autres ce travail-là, mais ensemble, nous devons acheter un camion pour le faire. Parce qu'il n'y a pas de coopérative ce sont aussi des coopératives liées à la mafia, no? Le mouvement des terres, les transports, les bâtiments, la construction des bâtiments, ils sont tout plein de mafias. Donc on ne peut pas faire un exemple. Nous distribuons les produits du parc agricole au groupe d'achat solidaire, mais aussi les agrumes de Calabria. Et Rosarno, c'est une situation de lutte formidable où il y a eu une révolte des travailleurs africains pour avoir des droits, etc. Et un groupe de producteurs ont fait une association qui s'appelle SOS Rosarno. Nous faisons la distribution de ces produits, mais le problème, c'est le transport. Et tout le transport est organisé pour la criminalité organisée. Et donc, il faut acheter un camion pour faire exactement. C'est l'exemple, non, tu m'as demandé. Donc, on ne peut pas avoir un soutien des structures de transport. Il faut organiser l'auto-organisation des transports aussi et développer des situations économiques et créer des liaisons.
Est-ce que vous avez des liens aussi avec ce réseau d'économie sociale et solidaire ainsi, qui s'appelle la RIPES?
Si, nous avons des relations, mais il y a des difficultés à organiser la partie économique en général. Il y a des grands projets très intéressants, politiquement très, très intéressants, mais il faut créer des structures qui peuvent se maintenir économiquement. C'est donc le défi. D'avoir une sorte d'économie alternative qui commence à se développer. Par exemple, avec Mondeggi et les terres occupées, nous avons des idées de créer des relations économiques, pas seulement des sympathies politiques. C'est ciao.
C'est intéressant parce qu'il y a. C'est la même problématique qu'on trouve un peu partout en Catalogne, par exemple. Je ne sais pas si tu as entendu parler de la coopérative intégrale de Catalogne. Hein,
non.
Qui essaye de créer des outils, justement, pour relier les différents secteurs, dont le transport est un des outils, mais il y a des outils aussi technologiques, etc., et légaux aussi, tu vois. Mais c'est des redes, des coopératives régionales dentro de Catalogne. Mais ils ont les mêmes problématiques, mais moins la mafia. Ici, vous avez la mafia.
C'est un problème important.
Oui, c'est intéressant. Et par exemple aussi, il y a une autre expérience que nous, on considère importante au Venezuela, qui s'appelle Secosesol, hein, qui date de plus de 20 ans, qui ont commencé par une coopérative des funerales, des productions agricoles, et après, transport, justement. Tu vois, c'est exactement pour assurer. Et ensuite, maintenant, ils ont un hôpital. Si tu vas voir sur Internet, c'est quoi c'est ça, là, c'est moins impressionnant. Okay.
Comment est-ce que vous êtes organisé au niveau des employés, des salariés? Est-ce que les 10 personnes qui sont des anciens salariés d'ici, aujourd'hui, est-ce que vous avez une structure qui les paye avec des salaires, ou bien comment est-ce que les gens gagnent de l'argent?
L'objectif, c'est exactement avoir des conventions et des conventions légales pour la défense des droits des travailleurs, parce qu'il y a à la fois des coopératives qui disent nous sommes des camarades, donc on peut faire ce qui est possible. Ce n'est pas juste. Et donc, on doit donner plus de droits aux travailleurs de ceux qu'ils ont sous le patron. Et donc, le passage des travail au noir que nous faisons depuis des ans, c'est exactement pour donner des salaires et des droits à tous les travailleurs au niveau, disons, légal. Et jusqu'à ce moment, nous avons fait la plupart une distribution d'un revenu et c'est la distribution en forme égalitaire de ceux qui entrent à travers toutes les activités de production, comme des événements culturels, des activités d'autofinancement, etc. C'est une division paritaire. Elle sera toujours une division paritaire, mais fruit de la production. Et donc, le travail de la production des palettes, nous avons un programme d'entrée économique. Nous avons un projet et nous avons déjà fait beaucoup d'expériences de production, de transformation alimentaire, par exemple, avec les produits du parc agricole. Et ça doit être une production avec un salaire régulier. Mais nous sommes proches à faire ça. Hein. La coopérative, exactement, va régulariser les travailleurs.
Et actuellement, ça veut dire que vous avez une sorte de caisse commune?
Si.
Donc toutes les ventes alimentent cette caisse commune, y compris le marché aux puces?
Mais jusqu'à il y a 2 semaines, il était ici. Maintenant, le marché aux puces est dehors, et donc il y a une contribution pour les services que nous donnons. Et pas tout ce qui vient du marché des puces entre dans une caisse. Non? Parce que l'activité est aujourd'hui à séparer. Et donc, il faut définir, et nous avons défini un quota, non? Si les gens ont un dépôt de matériel ici ou pas, s'ils participent au service de restauration, par exemple, pendant les 2 jours du marché ici. Et donc, il y a des quotas.
Qui sont payés individuellement.
Qui sont payés individuellement, oui. Ce sont des services différenciés de chacun. Et donc, il faut différencier. Mais seulement parce qu'il y a des gens qui ont un espace dans sa maison pour mettre les choses et des gens qui n'ont pas, donc il faut faire des services différenciés.
Donc est-ce que tu peux nous dire quelle est la proportion de salaire, ou disons quel revenu aujourd'hui est produit et permet une redistribution? La redistribution est vers les 10 salariés qui sont ici avant, ou bien comment est-ce que ça se répartit?
Alors, les anciens sont 20, les anciennes de Maflo sont 20, et les autres sont des chômeurs qui viennent d'autres usines. Le marché aux puces, c'était pour la plupart des gens qui faisaient la seule activité, et donc le revenu est le produit de son propre activité. Il y a des gens qui travaillent pour beaucoup de temps et des gens moins de temps, et donc c'est le revenu est proportionnel à l'activité. Et donc il participait à la casse, à la construction de la casse commune avec sa propre activité. Les autres, les anciens ouvriers, ont organisé pratiquement tout le reste. Et donc, la réparation de l'usine, la manutention de l'usine, etc., pour plusieurs mois, il y a eu un travail volontaire. Parce qu'il y a eu la destruction de tout, et donc il fallait reconstruire. Et donc, beaucoup de travail a été volontaire. Après, après quelques mois de l'occupation, nous avons eu la possibilité de faire une première redistribution du revenu. C'était très, très peu. 300, 400 euros par mois. Et donc, il était pour la plupart une intégration du subside de chômage. Après, le chômage est terminé. Et donc, nous avons eu la possibilité de passer à 500, 600, 700, jusqu'à 800 euros. Et c'est le top jusqu'au moment-là. Avec la production que nous auront la possibilité de régulariser le travail, la possibilité est de passer à, au salaire des conventions, des contrats existants. Et donc, les prochains mois seront ce saut en avant de notre activité.
Comment est-ce que vous êtes organisé au niveau décisionnel?
Donc, le modèle, c'est le modèle autogestionnaire. Et donc, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de comité de gestion séparé. Donc, toutes les décisions passent à travers l'Assemblée générale que les travailleurs font tous les mardis matin. Il y a les décisions et la programmation aussi de l'activité productive. Il y a des responsabilités qui sont décidées par l'Assemblée et donc il y a des gens qui s'occupent de la partie de production industrielle ou de la production alimentaire ou des projets, etc. Et ils changent aussi parce que nous n'avons pas fait des programmes à long terme, donc nous ne savons pas si la police nous chasserait le jour après, dans les premiers mois. Et donc, maintenant, nous faisons des projets à moyen terme. Et donc, la responsabilité, ça veut dire que des gens doivent étudier quelque chose pour programmer, etc. Non? Et donc, sur la carte, ce sont des choses très importantes. En effet, ce sont des études à la fois avec Internet pour voir comment fonctionne notre situation, etc. Et se faire des idées et après avoir des contributions des gens qui viennent gratuitement de l'université ou de notre côté, apportent des expériences et nous faisons un trésor de ces expériences. Et nous changeons la semaine après parce que tout était mauvais. Donc, c'est pas. Bon. C'est une situation très pauvre, très pauvre.
Est-ce que c'est perçu comme ça dans ici par exemple dans les gens progressistes à Milan, comme c'est perçu comme un laboratoire vraiment de ce Rimaflow?
Si, nous avons eu des compliments des secteurs les plus différents, des gens des secteurs très radical. De l'extrême gauche, disons, jusqu'au Vatican, au Pape, non, il a reçu, il nous a invités à la première réunion des mouvements populaires au Vatican l'automne passé, avec João Pedro Stedile, le deuxième terme. Et donc, parce que dans la situation de crise, il n'y a pas de solution par le capitalisme. Et donc, il y a des gens qui sont abandonnés. Et donc, si ces gens-là s'auto-organisent pour faire quelque chose, déjà, c'est un exemple. Et donc, si cela passe par l'occupation d'une usine qui, normalement, peut être abandonnée. Et donc, les usines abandonnées ici, dans le territoire, sont beaucoup. Et l'usine aussi abandonnée fait de la pollution, par exemple. Où il y a des choses qui passent très mauvais pour la mafia. Bon, c'est un préside aussi de défense pour la population. Et donc, il y a des gens qui voient les choses pour une alternative de société ou seulement pour avoir quelque chose pour faire vivre des gens. Et cette combinaison est bonne parce que donne une idée que les gens peuvent appuyer un projet d'alternative économique et sociale, sans être des révolutionnaires, hein, mais des gens communs. Avec le marché des puces, c'était très intéressant qu'il venait des gens de droite, de gauche, parce que la chose est bonne, non?
Et donc, et alors, comment tu expliques qu'il n'y ait pas un mouvement un peu plus à travers l'Italie? Que ça ne se réplique pas ailleurs?
Parce qu'il n'y a pas de tradition d'auto-organisation de la production. Vraiment, les syndicats sont très arriérés Exactement comme en Argentine, hein, parce qu'en Argentine, les grands syndicats étaient contre l'auto-organisation des travailleurs et la remise en fonction par les travailleurs des usines. Et donc, il y a une discussion qui a commencé. Par exemple, le plus grand syndicat de la métallurgie en Italie est la FIOM, qui aujourd'hui pense, pour résoudre certains problèmes d'organisation syndicale, de construire une coalition sociale. La fête de la FIOM de Milan a été organisée ici, dans cet lieu, et c'est un changement épocal. Personne de chez nous est organisé avec la FIOM. Nous sommes dans un syndicat de base alternatif. Mais le fait qu'il n'y a pas de réponse aujourd'hui dans la normale négociation syndicale pose des problèmes, et donc la possibilité de récupérer des usines pour faire travailler des gens est prise en considération. Mais il n'y a pas d'expérience. Et donc nous avons une discussion pour faire des expériences en commun. L'idée du mutualisme, par exemple, il y a des espaces dans la législation pour faire quelque chose dans les usines. Ils ne sont pas utilisés. Ils sont terminés dans les années 60-70. Et donc, il faut reprendre des pratiques qui sont disparues. Il faut les reprendre. Et je crois que aussi les terres récupérées peuvent poser de nouveau des problèmes qui étaient laissés
de côté.
Beaucoup d'années.
Une autre question de soutien aussi, c'est...
Dernier point quand même, on va devoir...
Tu parlais tout à l'heure des besoins de financement, par exemple pour le transport. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des contacts avec l'économie sociale, les banques populaires ou ce genre d'organisation-là? Ou bien est-ce que vous cherchez des financements à travers les financements participatifs ou...
Si, la campagne que nous avons faite, et c'est une campagne d'autofinancement à travers des groupes solidaires et direct, parce que l'économie solidaire et les banques populaires, etc., ont de grands problèmes aujourd'hui, et il est très difficile d'appuyer des projets, surtout dans informel, une situation où il n'y a pas de légalité. Et donc, je crois que c'est la possibilité plus forte d'organiser des financements directs. Mais dans le futur, je crois qu'il y aura des possibilités aussi de participer aux formes de financement plus traditionnelles de l'économie solidaire. Il faut construire quelque chose de plus fort à ce sujet.
Tu mentionnais tout à l'heure la structure légale vous êtes une structure légale de coopérative. Qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte politique italien en ce moment?
Bon, nous avons choisi la forme de la coopérative parce que c'est la forme juridique plus proche à maintenir une forme d'autogestion. Mais nous savons aussi qu'il faut rompre des barrières à travers des actions qui vont au-delà de la tradition, des formes traditionnelles. Et donc l'association que nous avons constituée est un peu l'avant-garde pour ouvrir de nouvelles portes. Par exemple, ce n'est pas possible d'avoir le souci de chômage et de faire un travail. On peut prendre tout ce qui vient pour le chômage avant et faire une inversion économique. Mais nous avons décidé de ne pas le faire. Parce que nous ne savons pas si la situation peut aller loin ou pas, et donc le risque d'entreprise, ce n'est pas chez nous. C'est l'idée qu'ont les universités, les néolibéraux, etc. Tu deviens entrepreneur, tu prends ton capital, tu t'endettes, toi, les amis, les pères, les fils, etc., pour les prochains 30 ans, et tu feras l'entrepreneur. Nous sommes totalement contre. Nous avons utilisé une forme de subside pour organiser la production. Et donc, c'est une chose borderline. Non? Et donc, nous avons utilisé la coopérative, mais nous avons protégé la coopérative et l'activité a été organisée pour l'association. Du moment que le travail vient régulier, c'est la coopérative qui organise le travail, qui doit avoir une interface avec les institutions pour les contributions des travailleurs, pour passer à travers toutes les autorisations nécessaires. Et donc c'est une utilisation de la loi telle qu'elle existe et de la forcer avec une activité politico-sociale à travers l'association.
Une espèce de double structure, quoi, finalement.
Oui. Oui. C'est un poids. Une troisième structure pour faire des actions aussi illégales, non? Pour forcer la situation à travers l'activité syndicale. C'est ça, il y a eu des moments du bloc de la négociation et nous faisons des activités traditionnelles, occuper des rues, etc., l'occupation de la banque aussi.
Quelle était la force du syndicat dans l'usine avant?
Bon, cette usine, c'est intéressant. Il semble quelque chose de pareil avec certaines situations en Argentine. Parce que ce n'était pas une usine avec une tradition de lutte. Il y a beaucoup d'autres usines avec une tradition de lutte radicale. Parce que ici, la production a été toujours très bonne. Il y a eu des problèmes de production aussi pendant dans la crise, etc. Et donc, il y a eu des présences militantes qui ont permis un saut en avant dans un moment particulier, mais sans une grande tradition. Et donc, ce sont des gens qui n'avaient pas de longue histoire ni politique ni syndicat. Le syndicat, il y avait un syndicat de base et la FIOM seulement. Et donc on pourrait dire l'opposition syndicale de gauche. Mais ça ne correspond pas à une tradition de lutte. Et donc c'est une éducation dans le moment de la crise pour récupérer tout ce qui est passé. Et je crois que c'est la démonstration que il ne faut pas avoir des militants révolutionnaires pour faire des choses révolutionnaires. Aussi en Argentine, il y a eu, quand les patrons sont allés